Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter d'abord personnellement, puis ensuite le groupe?
Alors, je suis Théo, et dans le groupe, je joue la guitare, et puis je fais les chants clairs.
Et puis moi, c'est Quentin, et du coup, je suis à la batterie. Et pour le groupe, les autres membres, il y a Elliot, qui est à la guitare, et puis au backing vocal, qui fait donc qui fait du scream. Et puis, il y a Simon, à voix principale, et puis Maxime à la basse.
D'accord. Comment est né le projet? Comment ça a vu le jour, We of Changes?
Alors, tout est parti de moi, en fait, parce que j'étais dans un autre groupe à la base, et puis ensuite j'ai voulu vraiment faire une autre musique qui me plaisait mieux, donc du metalcore. Et puis du coup, j'ai laissé une petite annonce traîner sur Facebook, et puis j'ai trouvé Elliot qui était assez motivé. J'ai eu un retour aussi de Théo qui voulait se lancer. Et puis du coup, après on s'est vu les trois, et puis on a pu trouver ensuite par la suite notre bassiste Maxime, et puis au final Simon, notre chanteur.
Vous êtes tous originaires de Lausanne, du même coin, ou
de la région?
De la région, ouais. Il y a le seul qui est un peu plus loin que les autres, c'est notre chanteur Simon qui vient de Genève, lui.
D'accord, ça reste gérable pour vous retrouver en...
Oui, sans souci.
D'accord. Donc tu parlais, voilà, peut-être une première étiquette metalcore, mais peut-être plus que l'étiquette, c'est toujours pour savoir ce que ça vaut. Peut-être, quels seraient les groupes ou les influences communes à l'ensemble des membres du groupe sur lesquels vous vous retrouvez?
Je pense au départ, c'était parti pas mal, je pense, Parkway Drive, Miss May I, August Burns Red, un peu ces groupes de ce genre-là. Et puis après, je pense pour maintenant, pour ce qui est de cet album, il y a eu pas mal. D'influence, je dirais des groupes, je pense, plus progressifs, et puis quelque chose comme ça.
Oui, un peu plus moderne, c'est vrai. Qui ressemble au final pas forcément à ce qu'on fait, mais c'est vrai, c'est plus là qu'on trouve des idées, peut-être. Donc des groupes comme North Lane, Monuments, même des groupes qui ont au final rien à voir avec ce qu'on fait, comme Tesseract. Et c'est vrai que c'est ça qu'on écoute plus et qui nous inspire.
D'accord. Et alors, toi, en tant que musicien, comment vous êtes construit dans votre instrument? Quelles étaient un peu vos références, les groupes qui vous ont accroché pour démarrer l'aventure musicale?
Bon, on jouait déjà, on a déjà tous joué dans des groupes auparavant. Et puis, du coup, c'était pas notre premier projet à chacun. Mais après, moi, je dirais, je trouve pas mal d'inspiration. Je sais pas exactement.
Ah, donc, batteur référence ou des batteurs référence?
Batteur référence. J'écoute beaucoup de choses, mais je sais pas, je dirais While She Sleeps ou bien Architects aussi. De ce genre-là, ouais, je pense.
Ouais. Alors, moi, c'est vrai qu'au départ, c'était quelque chose de plus pop-rock, je dirais, que j'écoutais du Linkin Park ou Bullet for My Valentine, qui était un peu mon introduction dans le métal. Et puis maintenant, c'est, comme je disais avant, un peu plus progressif, peut-être Aaron Marshall, de Intervals, des choses un peu plus poussées aussi. Il y a aussi le moment où on commence à réussir à jouer ce qu'on écoutait, notre batteur ou guitariste favori, et puis du coup, on commence à chercher quelque chose d'autre. Donc.
D'accord. Donc finalement, donc vous prenez forme entre guillemets vers 2014. Assez rapidement, vous sortez un EP qui est Honesty.
Oui, exactement. En fait, ce qui a eu, c'est que on s'est retrouvé donc en 2013, et puis
le trio, je veux dire du trio d'origine.
Le trio d'origine, voilà, ouais, c'était 2013. Même Maxime, il est venu comme déjà 2013.
Donc le bassiste.
Et puis du coup, on a eu pas mal de peine à trouver un chanteur, parce qu'on voulait, quelqu'un qui soit qui corresponde bien à ce qu'on fait, qui soit sympathique, et puis qui ait un bon charisme. Et puis après, ce qu'on s'est dit, c'est que on n'a pas dévoilé le groupe. En fait, le groupe n'existait pas tant que l'album n'était que l'EP n'était pas prêt.
D'accord.
Et du coup, une fois qu'on a eu l'enregistrement prêt, qu'il a été pressé, etc., là, on s'est lancé, on a dit bonjour, on est Wave Changes, on a déjà l'EP.
Ouais, vous ne voulez pas, bonjour, on est Wave Changes, et vous avez quoi à montrer? Rien.
Voilà, ouais, exactement. Ça arrivera dans 3 mois. Parce
qu'on... Donc on s'est révélé direct avec un single, voilà. Et puis le mois suivant, il y avait l'album qui... Enfin, l'EP qui sortait.
Et donc finalement, ça a fait 4 ans.
Exact.
Quelle évolution, quoi de neuf pour vous jusqu'à, qui a amené jusqu'à vous lancer dans la grande aventure de l'album complet?
Alors, en fait, on s'y est lancé très tôt, c'est-à-dire directement après la sortie de l'EP, parce que grâce à l'EP, on a eu quelques propositions de concerts où on nous proposait des sets plus longs que ce qu'on pouvait jouer avec notre musique. Donc, on a très vite commencé à composer d'autres morceaux, dont certains qui sont sortis entre l'EP et l'album en tant que single. Et puis, l'EP, on en était content, mais on savait que c'était pas autant travaillé que ce qu'on voulait faire. Donc c'était un bon départ, c'était l'histoire de se mettre sur la route, et puis donc on était très motivés à sortir quelque chose qui nous ressemblait plus que l'EP. Donc la composition de l'album Reflections a réellement démarré en 2014, mais la majorité a été faite environ en 2016, je dirais.
Et entre temps, avant ça du disque, il y avait un single qui était sorti, non?
Exactement.
Oui, on a eu Watcher et... Ouais.
Et puis ils sont sortis en single Watcher et Heritage, qui était prête bien avant l'album, en fait.
Toujours l'idée de vous rappeler au bon souvenir des gens, enfin vous rappeler que voilà, ça arrive, mais
voilà, on donne
des petites... Ouais. De rester actif, exactement.
On savait que l'album allait prendre du temps à produire, à enregistrer, etc. Et puis du coup, on voulait pas qu'il y ait un vide de 2 ans où il y a absolument rien, quoi.
Donc, surtout pour un jeune groupe, ça peut être dangereux.
Voilà, ouais. Ouais.
Donc vous signez chez Dark Tunes Music. Alors pourquoi ce label? Honnêtement, je le connaissais pas. C'est peut-être parce qu'il est très de niche. Voilà. Pourquoi eux? Quand ça s'est passé, vous avez tapé très large, vous avez essayé de voir un peu les réponses, ou est-ce que vous avez pensé à sortir en autoprod? Voilà.
Alors on a essayé. Donc on a une manager qui nous aide, qui s'appelle Yana, qui travaille avec un groupe allemand, Zetundreisigzweiss, s'appelle. Et puis c'est elle qui avait des contacts, et donc c'est eux qui ont démarché les labels et pas nous. L'idée était que
avec le produit fini.
Avec pas tout à fait, il était en phase de mastering, donc c'était presque le produit fini. Et puis c'est donc eux qui ont démarché des labels pour nous, en sachant qu'eux avaient plus de contacts que nous. Et on a eu cette proposition de chez Dark Tunes. On avait eu quelques autres propositions, c'était celle-ci de loin la plus intéressante. Et puis on connaissait certains aussi des groupes qui étaient signés chez eux, et donc c'est comme ça qu'on est arrivé chez ce label-là. Mais c'est vrai que nous, c'est pas nous qui avons fait la démarche.
Avec, vous fournissez l'album complet et qui distribue, ou ils ont exactement financé des choses avant
Non, alors c'est vraiment en fonction de
distribution. Ouais.
Voilà, c'est un deal de distribution, donc c'est eux ils font la distribution.
Donc, on s'assure que ça soit dans les bacs un peu partout.
Exact.
Et puis, d'accord.
Il y avait aussi un grand intérêt là-dedans, c'est qu'eux ils travaillent ils sont européens, ce qui est pas mal pour un groupe suisse. D'avoir une distribution européenne sans passer par la Suisse qui met des taxes.
D'accord, mais sachant que pour la Suisse, ils ont un autre label, ils ont un autre deal, ou c'est eux qui gèrent aussi, mais bon.
C'est quand même eux via aussi notre manager, et puis nous en fait. Notre distribution en Suisse se fait majoritairement par nous, puisque nous on tourne en Suisse facilement.
D'accord.
C'est vrai qu'on vend plus d'albums sur scène, enfin en concert, que via des magasins.
D'accord. Si je comprends bien, vous semblez avoir entre l'EP et l'album, à partir du moment où il était prêt, vous avez un cycle de 2-3 ans pour sortir. Ça vous semble être un cycle naturel pour le groupe? Vous voyez bien un peu fonctionner sur ce type de rythme?
On aimerait pour le deuxième album le sortir bien plus rapidement que celui qui... On n'aimerait pas avoir une aussi grande différence de temps entre les deux là.
Donc ça veut dire que vous avez déjà pas mal de trucs plus prêts, ou
oui,
pas loin de prêt?
Ouais.
L'album suivant il est en route, c'est en train de se mettre en place, ça commence à prendre forme, on a des morceaux finis. Et puis c'est vrai que cet album au final il aurait pu être prêt début 2017, mais on a décidé de le peaufiner, bien mettre les choses en place, commencer à travailler collaborer avec des groupes et des gens qui s'y connaissent mieux que nous. Trouver ce label, ça a pris du temps. Ensuite, il fallait mettre en place la promo avec le label. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a tout ça qui est en place, le prochain album, il pourra être fait beaucoup plus rapidement.
On a eu un peu... L'année 2017, c'était assez une année un peu tampon. On a fait 3 lives, je crois, en tout. Et puis, tout le reste du temps, on a passé à faire toute cette administration administrative pour sortir cet album un peu comme il faut.
Donc, à gérer la frustration d'avoir un produit, mais qui ne peut pas être...
Ouais,
alors là,
ouais. Parce que l'enregistrement fini, terminé, on l'a reçu, je pense, été 2017. Du coup, il y a bien eu 6 mois où on pouvait pas sortir, on pouvait pas le dévoiler.
Même les clips, en fait. Le clip qu'on a sorti la semaine dernière, on l'avait déjà, je crois, en août 2017.
D'accord. Finalement, quel est le processus typique de création d'un titre? C'est toujours l'un de vous qui vient avec une idée de riff, une structure, un squelette, et après les autres travaillent dessus? Comment ça
voilà. Alors c'est même plus complexe que ça. En fait, on a composé de manière on a composé de manière très individuelle. pour l'EP comme pour l'album, La plupart du temps, c'est Elliot, donc le guitariste ou moi qui composons, et on arrive avec une démo presque complète, en fait, le morceau presque complet. Avec une piste de batterie, les guitares. Il arrive même que moi, je mette déjà les voix dessus puisque j'écris les paroles. Et puis, à partir de là, par contre, tout le monde est libre d'apporter des idées, des modifications. Moi, comme je fais pas de batterie, souvent, je garde une ligne de batterie assez basique et je laisse le champ libre pour Quentin pour qu'il puisse amener ses touches, proposer des choses. Et puis, c'est vrai qu'on était plutôt individuel, surtout pour cet album et l'EP. Et puis pour l'album suivant, justement, c'est une des choses qui change parce que là, on se voit et je compose souvent avec Elliot, donc on a des morceaux où vraiment c'est 50-50 la part de travail.
C'est important pour toi d'arriver à quelque chose de déjà très fini, très chialé, ou c'est que ça t'avait une idée claire et donc au moins tu mets tout sur la table et après on discute.
Exact, c'était plutôt l'idée claire. C'est pas forcément que c'était important. Enfin, il y a un côté d'importance dans le fait où j'avais une idée, je démarrais, puis je me disais, oh, je sais ce qui va venir après. Et j'avais peur que si j'envoyais cette idée, quelqu'un propose autre chose qui n'était pas ce que je voulais. Donc du coup, j'amenais le produit presque fini. Mais par contre, j'étais tout à fait ouvert aux modifications, ce qu'on a fait sur pas mal de morceaux d'ailleurs.
Et donc toi, donc de l'autre côté du miroir entre guillemets, à voyant arriver, c'est quoi, tu fournis quoi, des pistes,
une démo.
Une démo, avec des fichiers MIDI.
D'accord. Donc toi c'est tout de suite de faire abstraction de ces lignes de batterie ou
non? Parce que souvent, vu qu'on a des riffs aussi qui sont assez donc breakdown, saccadé et tout ça, oui, il met déjà une batterie qui suit déjà bien le truc. Alors à part enlever ou rajouter une caisse claire par-ci par-là, un petit break, je change pas beaucoup parce qu'ils ont souvent déjà d'excellentes idées, parce que vu qu'on écoute aussi un peu la musique, et ben on a un peu du coup les mêmes influences. C'est vrai que je change pas énormément de choses, mais du coup quand je reçois les titres, et ben déjà j'essaye d'apprendre ce qui a déjà été fait, et ensuite je rebidouille à ma sauce, je remets un peu les breaks là où je pense, etc., etc.
Finalement, tu semblais le sous-entendre précédemment dans l'interview. Est-ce que par rapport au début du groupe, le son a évolué vers une complexité supplémentaire? Tu parlais des aspects progressifs ou gent, enfin un peu ce type-là. Avec t'as l'impression de dans ta façon de composition, t'as complexifié tes structures de titres?
Pas forcément, parce que c'est vrai que dans l'EP on avait beaucoup de titres qui ont par exemple pas de refrain, alors que dans l'album il y en a beaucoup quand même, des titres où on a vraiment cette structure couplet-refrain qui est assez populaire. Mais dans la musique de manière générale, c'est vrai que c'était une volonté de garder un EP assez simple, et puis maintenant de faire vraiment ce qui nous plaît, on essaye de trouver un équilibre. Je pense que c'est valable pour Elliot aussi, en tout cas de ce qu'on discute quand on se voit, de trouver une bonne balance entre avoir des riffs, des mélodies intéressantes, des choses qui sortent un peu de ce côté très carré qu'on avait avec l'EP, mais en même temps avoir des refrains un peu catchy, quelque chose qui est vite compréhensible. Alors voilà, on a quelques passages où on s'approche très gentiment de quelque chose d'un peu progressif. On a une fin ou deux fins de morceaux où il y a des signatures rythmiques différentes entre les instruments, mais sinon c'est plutôt des idées que je prends dans cette musique plutôt que vraiment la structure.
D'accord. Alors ça peut vous surprendre ou pas. Moi, la première fois que j'ai écouté le disque, la référence qui m'est venue à l'esprit, c'est In Flames.
Ah, c'est vrai. C'est intéressant.
Parce qu'il y a ce côté, comme tu disais, recherche une certaine mélodie accrocheuse.
Oui.
Bon, chant hurlé. Mélodie accrocheuse, surtout au niveau du refrain. Et puis même au niveau, de la structure, je trouvais qu'il y avait un coup de guitare, un coup de riff qui me rappelait un peu. Alors, vous l'avez pas du tout cité, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui suis un peu...
C'est vrai, mais c'est pour moi, c'est une... Alors moi, j'ai baigné dans In Flames quand j'avais 14-16 ans.
Mais dans le In Flames ancien, enfin, plus agressif, beaucoup plus...
Exactement. Et c'est vrai qu'après, j'ai presque complètement arrêté d'en écouter, mais peut-être que ça vient de là, peut-être que c'est...
D'accord.
Sans y penser. C'est assez juste, je pense, qu'au niveau des structures, c'est vrai que
ça vaut pas trop. Combien de titres vous avez bossé par rapport à ce qui apparaît sur le disque? Vous écrivez beaucoup et vous jetez beaucoup, ou vous ne travaillez que ce qui vous pense vous pouvez amener au bout?
Alors on a deux ou trois titres en plus, je crois, qu'on avait créé typiquement pour sortir quelque chose entre deux, puis aussi pour compléter les sets. Mais c'est vrai qu'on a, je pense qu'on a beaucoup travaillé ce qu'on avait, et puis on n'a pas élargi puis choisi le meilleur des 20 morceaux qu'on avait écrit.
En fait, ça a été fait par Yot et moi à la composition, c'est-à-dire que
tri avant.
Voilà, lui, parfois il m'envoyait des choses, il me disait écoute, j'ai composé ça, je sais pas ce que j'en pense. Mais c'est arrivé qu'on se dise, ah, mais dans ce que tu as composé là, il y a ce riff, il est sympa, et on va essayer de
l'intégrer dans d'autres morceaux. Ouais.
Alors je pense qu'au total, on avait une trentaine de morceaux, et il y en a 10 qui figurent sur le CD, mais mm-hmm. qui ont vraiment été travaillés et aboutis. Il devait y en avoir 13 ou 14, et puis il n'y en a pas beaucoup qui sont passés
pour l'EP aussi, il y avait eu au début, puis il y avait beaucoup de morceaux qui étaient incomplets, quoi. Et puis c'est vrai qu'après, bah, on a choisi un peu les meilleurs messages.
Mais ces 3 ou 4 titres qui n'ont pas vu le jour, ils sont poubelles, ou vous avez pu réutiliser des trucs pour ce qui va arriver, ou vous gardez, ou c'est du genre, vous avez tous des téléphones avec des montagnes d'idées, des mélodies, des machins, et puis c'est ta banque de données, entre guillemets.
C'est un peu ça, c'est
ouais,
un peu
c'est, ça. Reste en faut pas jeter, quoi.
C'est vrai que par exemple, bah, là, il y a un. Moi, ça me fait toujours plaisir quand je l'entends, mais sur Trapped, qui était le morceau qu'on a sorti avec un playthrough il y a un mois. Il y a un riff au milieu, c'est un truc que j'ai composé quand j'avais 16 ans. Et puis il était dans cette bande d'idées, et puis un jour je me suis dit, mais c'est là que je vais mettre ce riff. C'est vrai que c'est un riff dont j'avais toujours été content, mais je n'avais jamais réussi à placer nulle part. Donc voilà, ça reste là, peut-être qu'on les utilisera, on verra.
En termes d'enregistrement, donc vous aviez eu toute l'expérience de l'EP, où ben, on apprend énormément, surtout. Alors vous aviez des expériences auprès de groupe avant, mais je ne sais pas si vous avez eu d'expérience d'enregistrement. Est-ce que vous l'avez abordé différemment? Est-ce que vous avez fait des choses, découvert de nouvelles choses, mieux, moins bien? Enfin, ça a été douloureux, simple?
C'était plutôt douloureux, je crois. On s'est un peu mal pris au niveau des timings, on était un peu pris de court, et du coup, on a fait. L'enregistrement, il s'est passé sur 6 mois, je crois. Parce qu'on a tous fait tout décalé, en fait.
Une petite session.
Exactement, et c'était pas terrible au final. Parce qu'on s'est retrouvé avec des timings plutôt mauvais. Mais clairement, on a beaucoup appris en le faisant aussi, et c'est de nouveau une chose qui ira plus vite pour le prochain, parce que maintenant on sait comment fonctionner. On a pensé que ça posait pas de problème, et puis au final, c'était un peu embêtant de faire les choses comme ça, complètement décalées, parce que du coup, il y en a certains qui étaient à fond dans l'album, et d'autres pas vraiment, parce que c'était pas encore leur tour, ils savaient qu'ils allaient enregistrer dans 3 mois, puis du coup,
vous êtes fait dans un ordre classique, c'est-à-dire d'abord tout qui est rythmique, donc batterie, basse, et puis ensuite les guitares et le chant, ou vous avez.
Oui, ouais, ça on a fait dans un ordre.
Je crois par contre, c'était guitare avant la basse. Mais c'était batterie en premier. Ouais,
oui, exact.
Et quand toi t'es rentré en studio, t'avais une à partir du moment où à partir d'un premier des pistes sur lesquelles t'as travaillé pour enregistrer et quand vous êtes arrivé par exemple après les guitaristes ou le chanteur, il y a eu des modifs. Vous avez fait des alors les batteries étaient figées entre guillemets, mais vous avez encore modifié les choses ou vous n'avez rien touché parce que vous étiez calibré?
Alors, on avait, dans le temps qu'on a pris pour faire cet album, il y avait quand même toute une période où j'ai fait les pré-productions de tous les morceaux. Donc, on était assez sûr de ce qu'on voulait. Il y a eu quelques petites modifications, des idées qui sont venues en studio, mais dans l'ensemble, très peu.
Ouais, c'était des petites peaufinées, quoi.
Voilà.
Et par exemple, sur ta batterie, ça t'a pris combien de temps?
3 jours.
Avec en moyenne, ça c'est pour moi entre guillemets pour la curiosité des choses, en moyenne sur un titre, tu fais combien de prises?
Ça dépend. Il y en a des, j'étais un peu plus près que d'autres parce que ça faisait un moment qu'on les avait. Il y en a des autres, je les ai bossés une semaine avant parce qu'ils étaient un peu prêts un peu à la dernière minute. Mais en moyenne, ouais, je crois que le premier jour j'ai dû faire 5 morceaux, puis après les autres. J'ai fait un peu les plus faciles au début et les plus compliqués les 2 autres jours. Mais en moyenne, ouais, je dirais, je sais pas, 5-6 prises. Après, sur le gros, après il y a des parties, je refaisais un peu plus de fois parce que c'était pas très propre ou bien.
Et est-ce que sur certains titres, t'as proposé des alternatives? Là, je peux faire soit ça comme ça, soit ça comme ça, puis après.
Oui, alors je me souviens plus exactement, mais je sais que j'avais proposé. À Vladimir, donc celui qui nous a enregistré, 2-3 choses, ça je peux faire ça, qu'est-ce qu'on pense et tout. Et puis voilà, ou bien il y a des fois, je devais faire quelque chose que je savais ce que je devais faire et tout d'un coup je sortais autre chose. Et puis il m'a dit, ah, puis je lui disais, ah, mais non, mais là écoute, je me suis planté et tout, faut que je refasse. Ah non, mais je trouve que ça sonne bien et tout, écoute et tout, machin. Et puis du coup on gardait ça comme ça. Quoi. D'accord. Après je l'ai rappris à le jouer comme je l'avais fait.
Le visuel. Alors, votre visuel, il est à la fois simple et je trouve qu'il qu'il marque assez l'étiquette metalcore. Alors, c'est peut-être moi mon cliché du metalcore. Comment vous l'avez bossé?
Et ça a pris beaucoup de temps. Alors, tous les visuels, ils sont dessinés par notre chanteur Simon, qui est tatoueur maintenant. Depuis l'EP, c'est lui qui fait tous les visuels, également de notre merch. Et puis moi, pour les albums, j'ai bossé avec lui pour faire en fait ce qui est la partie design. Donc lui, il a fourni ses fioritures qu'on voit, puis tout le reste, c'est moi qui l'ai fait, mis en page, si on veut bien.
Lui il a fourni l'aspect végétal, là.
Exactement. Et,
d'accord.
C'était pas notre première pochette, on en a fait une autre pour cet album, et puis au final on s'est dit que ça allait pas, aussi en relation justement avec les gens avec qui on travaille, qui nous ont dit que c'était un peu terne, et d'abord on n'était pas très d'accord avec eux, puis au final on a travaillé sur autre chose, on s'est dit bon, ils ont pas l'air d'être convaincus, on essaye quand même de trouver autre chose. Et puis c'est vrai que quand on est arrivé gentiment à cette idée, qui était un grand mix d'idées entre justement Simon et moi, on s'envoyait plein de fichiers dans tous les sens en essayant des choses, et puis au final on est arrivé à ça qui représente beaucoup mieux aussi l'aspect quand même assez sombre de l'album en général dans les thèmes dont il traite. Et puis c'est vrai que maintenant quand on voit l'ancienne pochette, on se dit qu'on a bien fait de changer. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est vrai qu'au final il tombe peut-être dans quelque chose qui représente assez bien la musique, et c'est pas plus mal parce que l'autre je pense représentait pas, enfin collait pas vraiment au
thème. Si je me souviens bien, Honesty, c'était très clair comme image.
Oui, c'était un coucou en fait.
Et c'est ça. Alors que là, c'est full dark quoi. Enfin,
Oui, il y avait cette idée de faire quelque chose de plus épuré, plus terne. On aimait notre EP comme il était, mais on voulait quelque chose
moins chargé,
ouais, surtout.
D'accord. Toujours en termes de visuel, donc vous travaillez le média clip vidéo. Donc vous avez sorti Trust.
Exactement. Oui.
Bosser avec un réalisateur qui s'appelle Brice Ikea.
Oui, exactement, c'est le batteur de Smash It Combo.
D'accord. Voilà. Comment ça s'est passé l'enregistrement de ces clips? Il y a toujours deux sons de cloche vu des artistes. Alors ça reste un outil média important, mais c'est souvent c'est l'enfer tout relatif, mais c'est assez épuisant à faire parce que c'est, je refais 45 fois la même machin.
Alors c'est très chaud, c'est vrai, surtout qu'on avait cette très bonne décision de tous avoir des manches longues, pas être en t-shirt, donc et il faisait je pense 30 degrés au soleil, donc oui c'est vrai.
Avec la veste.
C'est tourné où
C'est tourné à Gaillard, donc en France, à côté de Genève, juste à la frontière de Genève, côté français. Mais sinon ça s'est très bien passé, ça a été fait sur deux jours, un jour pour les prises de groupe, un jour pour les prises avec l'acteur en fait, qui est le grand-père de Quentin.
Voilà.
Et puis au final ça s'est bien passé, ça s'est très bien déroulé. Bon, Brice a l'habitude, il tourne énormément de clips et dans ce genre de musique, donc il sait ce qu'il fait, il arrive à économiser des gens, c'est-à-dire dire là je fais des plans de groupe mais ils sont là, donc toi tu peux arrêter de jouer, de toute façon on ne verra pas, c'est bon. Donc ouais, il est bien organisé,
ouais, c'est ce qu'il fait.
Donc à part Quentin qui est derrière le kit pour toutes les prises, nous on pouvait s'économiser.
Voilà. Mais à quel point c'est vous qui êtes arrivé avec le scénario, donc bon, on l'a dit, il y a un scénario, on voit une partie du groupe, une partie, une histoire qui se déroule derrière. À quel point c'est vous qui êtes arrivé, c'est lui qui est arrivé, c'est une discussion entre les deux?
Alors c'était plutôt nous qui sommes arrivés avec, c'est-à-dire qu'il nous a demandé si on avait une idée, et pour cet album j'avais mis beaucoup de temps dans l'écriture des paroles, et j'ai laissé toujours des paroles qui laissent une interprétation assez libre, et puis mon idée c'était de proposer une interprétation des paroles de Trust et puis Cold Hands. Donc il y aura deux clips, il y a le deuxième qui va sortir dans quelques semaines, et les deux sont liés. Donc c'était... Donc du coup j'avais une bonne idée de fond, et le deuxième clip c'est pas Brice qui le réalise, donc j'avais déjà réfléchi aux deux en relation, donc l'idée était plutôt définie.
Et vous avez enregistré les deux dans la foulée?
Presque, et Cold Hands on l'a tourné un peu après. Par contre Cold Hands, le tournage a été un petit peu plus pénible, on était un peu plus ambitieux sur le set pour les scènes de groupe, où on a investi un théâtre, fait un bac avec de l'eau, on joue les pieds dans l'eau en fait. Et puis voilà, c'est vrai qu'avec Quentin, on y a passé pas mal de soirées à installer ça avant que ce soit tournable. Alors on est content du résultat, c'est vrai que là par contre, c'était un peu plus épuisant et beaucoup d'énergie. Mais bon, voilà, on est content du résultat.
Vous avez eu l'occasion lors de différents concerts de partager les scènes avec des groupes qu'on connaît bien en France, que ce soit Dagoba, Benighted. Au contact de ces groupes-là qui, pour certains, pas mal d'expérience ou pas mal de vécu, vous apprenez à leur contact, on est arrivé à communiquer, ça se passe bien, ou ça reste des chapelles différentes, et donc les groupes se croisent?
On s'est croisés donc dans les backstage et tout ça, très, très sympa, y a moyen de discuter et tout. Moi je connaissais déjà le batteur de Dagoba. parce que il a joué, enfin il a fait toute la partie studio, je crois, d'un autre groupe qui s'appelle MAO. Et du coup, ils ont tourné un clip en Suisse. Et puis ils avaient besoin d'une batterie, d'une grosse batterie avec double grosse caisse. Et moi, dans mon ancien groupe, j'avais ça. Et du coup, ben, la chanteuse m'a demandé, est-ce que tu peux nous prêter la batterie et tout. Puis du coup, ben, je lui avais prêté la batterie sans problème. Et puis c'est vrai que ben, là, on s'était revus à Genève pour faire cette date. Et puis ben, on a pu discuter, changer des trucs. Et c'était vraiment très intéressant, quoi.
De manière générale, je dirais que c'est une scène, enfin la scène métal en général est très chouette pour ça. C'est très ouvert, il n'y a pas... C'est rare qu'on voit des arts. Qui sont prises de tête, donc ils sont toujours très contents de voir aussi bah, des groupes locaux. Ils ne nous font pas sentir comme un groupe plus petit.
Alors ouais, si vous êtes en première partie, c'est genre vous avez des conditions, des 5 minutes pour vous installer, pas de.
Non, justement, hein. on avait eu soundcheck et tout, c'était très correct.
Ouais, non, non, vraiment.
Surtout, d'autant plus que l'organisation de ce festival était tenue par un ami à nous, donc Randy Chaleur, qui joue aussi dans plusieurs groupes. Et puis, c'est vrai que. L'organisation, le temps, on a eu un peu accès à la même chose que tout le monde, quoi.
D'accord.
Donc ça, c'était vraiment chouette.
Et dernière question avant un petit quiz pour mieux vous connaître. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vu de l'intérieur, entre guillemets, sur la scène métal suisse et en particulier, si les différences qu'il peut y avoir entre la partie romande et alémanique.
Alors, les deux parties sont très clivées. C'est les groupes romands, on les connaît tous et on les revoit tous, et quand il y a un groupe romand qui fait un concert, et tous les autres sont dans le public, et donc c'est vraiment une équipe qu'on se connaît. Et les Suisses allemands, bah, c'est plus dur de s'exporter là-bas pour nous. En fait, c'est vraiment presque comme deux pays au final.
Parce qu'on peut avoir l'impression, vu aussi de notre point de vue, que la Suisse est plutôt un marché favorable pour tout ce qui est métal, rock, hard rock, machin. Mais on a peut-être l'idée, en fait, on se fait ça sur l'alémanique.
Exactement.
Oui, et par contre, la romande, c'est peut-être la même problématique qu'en France, c'est pas un public très métalleux, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on voit ça pas mal.
Ce qu'il y a aussi, c'est qu'en Suisse alémanique, ils ont beaucoup plus de petits clubs et de petites salles qui sont propices à faire jouer des groupes de notre taille. Tandis qu'en Suisse romande, ben, on a tout de suite des tout petits bars minuscules ou des grosses salles. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux.
En France, c'est pareil.
Alors, tandis qu'en Suisse alémanique, ils sont vraiment bien fournis en tant que petite salle de concert. Et puis du coup, c'est vrai que ça marche beaucoup. Là, actuellement, on participe à une tournée qui s'appelle Out of Control. Et on joue avec... on est le seul groupe romand dans les deux groupes, avec les deux autres groupes suisse-allemands. Qui font le tour. Et du coup, on fait sur la tournée, il n'y a que deux dates en Suisse romande.
Mais, sinon, c'est Bâle, Zoug,
ouais, toutes les autres salles de Suisse alémanique. Et puis, du coup, moi, je trouve en tout cas que là, on a fait pour l'instant que deux dates. Mais sur les deux dates, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, c'était vraiment, vraiment bien.
Il semble qu'il y ait quand même un petit peu plus ouvert à aller en concert.
C'est plus différent qu'en Suisse romande.
D'accord.
En Suisse romande, les gens, ils sont souvent, sur les trois groupes qu'il y a, j'en connais deux, ben, je reste seulement à ces deux, puis les autres, je me barre, quoi.
Donc, vous, votre perspective de marché, c'est bien entendu, la Suisse, et en particulier, donc, la Suisse romande, mais vous visez, quoi, plutôt France, Allemagne,
L'Europe en général.
De manière un peu aveugle, l'Europe. Et en regardant, je dirais, pour le moment, c'est un peu, on va voir là où ça marche. Donc voilà. C'était l'Europe, déjà essayer de sortir de la Suisse, sans viser particulièrement un endroit, peut-être l'Europe de l'Ouest plus, parce que ça a l'air d'un peu mieux fonctionner dans ces genres de musique.
Parce que pour l'instant, j'ai vu sur votre site, j'ai vu que les dates, je crois encore 7 dates en Suisse.
Oui, oui.
Et il y a d'autres choses qui vont arriver.
Oui, c'est en préparation. On a eu quelques propositions de tournée intéressantes, mais qu'on a malheureusement dû refuser. Mais on est en train de travailler là-dessus. Donc normalement, il y a une tournée en tour support d'un plus grand groupe qui devrait arriver.
D'accord, tout ça c'est Facebook pour suivre l'actualité du groupe.
Exactement.
Et donc juste pour terminer, 2-3 questions sur vos goûts musicaux. Donc c'est vraiment, là, il n'y a pas ni bonne ni mauvaise question, c'est vos goûts. Chanson préférée de tous les temps. Sur le moment, là,
sur le moment,
19 février, je sais pas quelle heure, midi 25.
Sur le moment, moi je dirais pour ma part, Dayseeker, le titre Sleep in the Sea, part 2.
je dirais North Lane Aspire.
Le dernier disque que vous avez acheté?
Alors, le dernier disque que j'ai acheté, c'était The Dali Thundering Concept, donc un groupe français. C'était leur dernier album. Et je me réjouis d'acheter le suivant qui sort bientôt.
Le dernier disque que j'ai acheté. C'est une bonne question. Je me souviens pas.
Pas de soucis. Vous voyez les outils comme de streaming type Deezer comme une bénédiction ou une malédiction? Maintenant, alors, vous avez les deux aspects, il y a l'utilisateur spectateur et l'aspect groupe.
Alors, l'aspect utilisateur, moi je trouve ça génial parce que j'écoute beaucoup de styles de musique différents et ça me permet de taper un peu partout sans forcément avoir à acheter l'album, ce qui n'est pas un problème. Mais si je voulais écouter tout ce que j'écoute là, il faudrait que je sois millionnaire, je pense. Je donne aussi des cours de musique pour enfants et du coup ça me permet d'avoir tout de suite accès à des musiques dont ils me parlent. Donc c'est très pratique. Pour les groupes, il y a des aspects très bénéfiques comme les playlists qui sont faites à partir de ces sites où du coup on se retrouve à côté de groupes bien plus populaires et ça permet de découvrir autant pour l'utilisateur que pour le groupe de se faire découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté on touche pas grand chose dessus à moins d'être écouté des milliers de fois. Donc ça va un peu dans les deux sens, mais je suis quand même plutôt favorable à ce genre de plateforme, surtout pour des petits groupes qui n'ont pas de réputation. Donc au final ça nous amène plus de bénéfices, je pense, que de...
Toi aussi tu es utilisateur content de ce
oui.
type de...
Bah, oui, tout à fait. Et dernier, c'est pour ça que je me souvenais pas du dernier que j'ai acheté. Mais le dernier que j'ai acheté, c'était Bobby Tomorrow, Man on Fire.
D'accord, et toute dernière question. Imaginez pour l'album à venir, le prochain, vous avez le choix d'un guest, vivant ou mort, vous prenez qui?
Moi je pense en un guest vocal.
Un guest vocal, et ça serait peut-être Gareth Russell, c'est le chanteur de Silent Planet. En tout cas, si ça tenait qu'à moi, je ferais vraiment venir pour...
Je suis d'accord avec ce choix.
Parfait, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Super, merci beaucoup. Merci.